Bonjour mon cher Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous. Alain.
On va rappeler que c'est un long week-end de journée du patrimoine et c'est l'occasion d'aller visiter le jardin Albert Kahn, visiter ou plutôt revisiter car il est de nouveau accessible au public.
Et oui, il était fermé pour travaux et il rouvre aujourd'hui même. Alors pour fêter l'événement, et même s'il faudra attendre 2021 pour découvrir l'intégralité du musée, le département des Hauts-de-Seine, propriétaire du lieu, inaugure la première mise en lumière nocturne des scènes paysagères et propose des animations autour des collections extraordinaires.
Et vous dites que ce jardin Albert Kahn, c'est l'un des plus beaux de France, carrément.
Je l'affirme même. Mmh. Il a été créé par Albert Kahn, un banquier qui voyage beaucoup et découvre les États-Unis, le Japon, la Chine, la Mongolie, l'Uruguay, l'Argentine ou encore le Brésil. Vous imaginez, on est en 1894, c'est incroyable. De retour en France, il demande au paysagiste Eugène Denis de créer un jardin pour sa maison aux portes de Paris. Il achète ensuite les propriétés avoisinantes pour agrandir son domaine. Il possède alors 4 hectares de terre.
Albert Kahn, c'était un sage qui voulait transmettre son savoir.
Et oui, en 1906 par exemple, il crée le cercle autour du monde et à partir de 1910, les archives de la planète. Pendant près de 30 ans, cet homme hors du commun va accumuler des images, des films, des photographies du monde entier et la collection qu'il a réunie est aujourd'hui encore considérée comme l'une des plus belles et des plus riches du monde.
Il faut dire qu'Albert Kahn a voyagé sur tous les continents.
Et oui, et donc quand il est chez lui à Boulogne, il crée un décor qui lui rappelle les paysages qu'il a pu admirer. Il aménage par exemple, là encore, un jardin anglais et un japonais et 3 forêts, la forêt vosgienne, la forêt dorée et la forêt bleue. Au centre de la propriété, Cocorico, il installe un jardin à la française, une manière bien à lui de placer son pays, la France, au centre de l'univers.
Oui, alors, sauf que la suite est bien plus sombre pour Albert Kahn, car il a fini sans un sou.
Eh oui, fort heureusement, il conserve l'usufruit de sa propriété jusqu'à sa mort en 1940. Alors, que reste-t-il de cet homme? Eh bien, un jardin merveilleux qui mérite vraiment le détour. Il est situé à Boulogne-Billancourt, mais réellement, dès qu'on rentre dans ce jardin, on est immédiatement saisi par la beauté du site. Et je crois que Patricia connaît bien.
Il y a des ondes, des bonnes ondes.
C'est merveilleux. Un très bel endroit.
Un bel endroit, le jardin Albert Kahn, Boulogne-Billancourt, près de Paris. Vos suggestions, vos conseils aux auditeurs et auditrices de France Inter, Alain Baraton. On commence avec Edith. Elle nous parle de son poirier de 3 ans. Il a été planté à l'automne, il a fleuri au printemps. Au mois d'août, les feuilles ont séché, elles sont tombées. Et le voilà maintenant, ce poirier. Très bien fleuri, avec même de nouveaux fruits qui apparaissent, va-t-il donner des fruits à la Toussaint, ce poirier?
On ne cesse d'évoquer le réchauffement climatique et les conséquences dramatiques sur l'environnement. Voilà un exemple typique. Ce poirier est heureux, nous sommes au printemps, il fait des fleurs en vue de fructifier, tout est normal. Arrive la sécheresse et surtout la terrible canicule, le feuillage est brûlé, tombe.
On dit une cagoule et une canicule.
Oui, mais ça arrive de temps en temps. Toujours est-il donc que le poirier souffre considérablement des conditions terribles de température et il est complètement perturbé parce que généralement les températures évoluent au fil du temps et le poirier s'adapte à cette évolution. Là, il a un peu l'impression que finalement c'est un redémarrage. Il produit des fleurs qui ne pourront pas produire des fruits qui arriveront à maturité, il n'en aura pas le temps. Mais cette production de fruits ou de tentatives le fatigue. Et si tous les hivers la situation se répète, eh bien malheureusement il risque fort de ne pas, comment dire, résister longtemps. Donc voilà l'une des conséquences, la sécheresse, la canicule, l'élévation des températures risquent de détruire, et pour longtemps, quantité de nos arbres.
Mathilde, elle nous parle d'un accident de mini-pelle dans son jardin. Cet accident a détruit son carré d'isopes. Vous nous direz ce que sont les isopes. Alors donc, elle avait fait des semis au printemps. Finalement, un seul plant a survécu. Et elle ne sait pas, Mathilde, si elle doit la remettre en terre avant l'hiver ou bien attendre encore.
Oh, l'isope, c'est une petite plante arbustive qui était très appréciée autrefois pour les propriétés médicinales. On traitait avec, paraît-il, parce que je ne suis pas médecin, tout ce qui est affection des bronches ou pulmonaires. Et avec Kant, il n'y avait pas un jardin médicinal, même potager, d'ailleurs, sans isope. Alors, bah oui, la plante est frileuse en hiver. Il est préférable de la protéger du froid. La cultiver en pot est la chose la plus simple quand on vit au nord de la Loire. On a des isopes que l'on met dans une véranda, qu'on préserve du gel, et on ressort au printemps, et tout se passera très bien. Donc là, effectivement, attention au gelé. Les jeunes plants ne supportent pas le gel. quand la plante est vraiment durablement installée, elle peut vivre un petit peu plus longtemps.
Florence veut vous parler de sa glycine. Elle l'a plantée il y a 6 ans maintenant. Alors elle se porte bien, cette glycine, mais elle ne fleurit toujours pas. Y a-t-il quelque chose à faire?
J'adore la glycine parce que c'est une plante capricieuse.
Ça abîme tous les fers. Hein.
Ah, tout.
Ça vous rappelle les femmes?
Oui, peut-être. Ouais, les femmes m'ont fait souffrir, vous savez, chère Patricia.
On en parlera un autre moment.
Oui, on n'aura jamais assez de temps. Eh bien, la glycine est une plante qui fait ce qu'elle veut. Elle va où elle veut, vous venez de le souligner. Elle emporte tout derrière elle. Et puis, elle fleurit si elle en a envie. On parle, par exemple, il y a des légendes qui prétendent que quand on l'a plantée non loin d'une glycine, par exemple une clématite, elle a cessé de fleurir, la glycine, pour montrer sa jalousie. Toujours est-il que cette plante déteste l'excès d'humidité, elle déteste l'excès d'engrais, et quand elle a trop d'azote, par exemple, dans la terre, eh bien, elle ne fleurit pas beaucoup. Elle est parfois taillée judicieusement, parfois moins. Donc, pour faire fleurir une glycine, on attend et on espère.
C'est Jean-Paul veut vous parler de son ficus. Que faire pour éviter la perte de feuilles en hiver de mon ficus âgé d'une vingtaine d'années?
Ah, le ficus, c'est la question qui traditionnellement arrive tous les ans à l'automne. Le ficus en pot, il a 15 ou 20 ans, il est magnifique. On l'a placé dans le jardin à l'ombre et c'est heureux. On l'a arrosé comme il le fallait. Il était beau, il a même fait quantité de feuilles. Et puis on le rentre dans la maison et là il perd quantité de feuilles. Trois raisons à cela. Un, les plantes n'aiment pas être déplacées. Elles ont l'habitude d'une exposition au soleil. Quand on la bouscule, elle est un petit peu mal à l'aise. Deuxièmement, le changement de température. Troisièmement, les courants d'air. Mais rassurez-vous, la situation va vite se rétablir. Une fois que les feuilles sont tombées, il se stabilise. Il en reproduira jusqu'à la sortie au printemps plein air où l'air commencera à perdre quelques feuilles.
Allez, un dernier conseil pour le week-end.
Eh bien, c'est la Société d'horticulture de la Gironde qui célèbre ses 180 ans là ce week-end et organise une très belle exposition jusqu'au 5 octobre. Bordeaux Jardin, c'est Courmably à Bordeaux. Merveilleuse exposition. Je sais de quoi je parle, j'y étais hier.
Merci Alain Baraton et à demain pour la main verte.
À demain.